Vous écoutez RFI, il est 9h30 à Paris, 7h30 en temps universel. Nemo en piste pour le journal.
Merci Andréane, et on en sait plus sur le contenu du deuxième projet d'accord sur lequel vont se pencher des experts rwandais et congolais à Washington cette semaine, dans le but de prolonger les négociations de paix entre les deux pays, retrait inconditionnel du Rwanda du territoire congolais ou encore levée de l'état de siège dans le Nord Kivu sont deux des conditions préalables à la signature. Des résultats contestés, on a tué la démocratie, dit un opposant ce matin sur RFI après la publication des résultats provisoires des élections législatives au Burundi. Sur 100 sièges en jeu, le parti présidentiel remporte la totale. Plus de 96% des suffrages exprimés, des miettes pour le reste des partis. Et puis une journée massive de manifestations annoncée au Nigeria ce jeudi 12 juin. Date chère au président Bola Tinubu. C'est ce jour, en 1993, que son mentor politique, Moshu Dabiola, s'était fait, je cite, « voler son élection ». La poursuite des négociations de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda prévue cette semaine à Washington. Après la déclaration de principe signée à la fin du mois d'avril entre les deux pays, des délégués des deux camps sont attendus dans la capitale américaine. Pas encore les ministres respectifs des Affaires étrangères, mais bien des experts qui doivent se pencher sur le deuxième projet d'accord. Mais alors, que contient ce document? Passion Ligaudi a pu y jeter un œil.
Ce document, consulté par RFI, fixe deux conditions préalables à la signature. Premièrement, le retrait inconditionnel du Rwanda du territoire congolais. Cela inclut les armes et équipements sous contrôle rwandais, à l'exception des cas expressément prévus dans le cadre du mécanisme conjoint de coordination sécuritaire. Deuxièmement, la levée de l'état de siège dans le Nord Kivu. En vigueur depuis 2021, comme en Ituri, cet état d'exception doit céder la place à une administration civile pour permettre l'avancée du processus. Autre élément clé, la référence à l'accord de cessez-le-feu entre Kinshasa et la FCM-23, toujours en discussion sous l'égide de Doha. La logique est claire, l'accord avec le Rwanda ne pourra être signé qu'après la conclusion de l'accord entre Kinshasa et la FCM-23. Le projet d'accord aborde également la question des FDLR. Les deux pays devront, je cite, se coordonner de bonne foi pour identifier, évaluer, localiser et mettre fin à l'existence des éléments armés des FDLR. Cette coopération s'inscrit dans le cadre et selon les modalités du concept d'opération convenu à Luanda en octobre 2024. Enfin, le texte prévoit que la RDC interdira et interceptera tout soutien matériel ou financier, national ou étranger, destiné au FDLR.
Impatient Ligaudi, la RDC et cette affaire qui fait grand bruit à Kinshasa. Un célèbre avocat spécialisé dans le secteur minier est détenu depuis plus de 3 mois. Maître Médard Palankwa aurait été, selon sa famille et ses avocats, enlevé et détenu sans accès à ses conseils. Selon les mêmes sources, il aurait été délocalisé dans un local dépendant du Conseil national de cyberdéfense, un service rattaché à la présidence de la République. Une interpellation qui a eu lieu dans son propre cabinet d'avocat. Ses défenseurs parlent d'enlèvement, d'arrestation arbitraire, mais aussi de multiples violations de ses droits fondamentaux. Je vous propose d'écouter son avocat, maître Laurent Onyemba.
Un service qui avait une mission spécifique d'identifier, travailler au niveau des attaques contre le Congo par des cybercriminels. Nous n'avons pas compris les revirements aujourd'hui de cette agence vers un service qui détiendrait des gens au-delà de 3 mois en violation de loi. C'est ce que je dénonce ici. J'ai écrit au procureur général près de la cour d'appel de Kinshasa Gombe pour demander le dossier en communication. Le dossier est resté sans suite. Je suis allé m'adresser au chef de l'État comme les garants du bon fonctionnement des institutions, surtout que ces services dépendent directement de l'institution président, pour dénoncer cette arrestation, cet enlèvement tragique, mais que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai reçu même pas d'accusé de réception. C'est toute ma déception comme avocat, parce que je suis censé défendre l'État, défendre la République, mais avec les instruments que cette République met à ma disposition, qu'est la Constitution.
Maître Laurent Onyemba, avocat de Maître Médard Palankwa, au micro de Patient Ligaudi. Au Burundi, la CENI a proclamé hier les résultats provisoires des élections législatives de jeudi dernier. Selon les chiffres de la Commission électorale nationale indépendante, le parti CNDD-FDD, au pouvoir depuis maintenant 20 ans, a obtenu plus de 96% des voix, ne laissant aucune miette, ou presque, aux autres partis. En deuxième position, on retrouve l'UPRONA, ancien parti unique du pays, crédité d'1,38% des suffrages exprimés. Sur les 100 sièges de la nouvelle assemblée, le parti d'Evariste Ndayishimiye en récolte donc la totalité, puisque seuls les partis qui obtiennent plus de 2% peuvent siéger. Ce matin, Olivier Nkurunziza, secrétaire général de l'UPRONA, rejette ces résultats qu'il qualifie de fantaisistes et dénonce un scrutin truqué.
On a tué la démocratie au Burundi. On a boycotté les proclamations des élections parce qu'on devrait aller assister effectivement à ce genre de proclamations fantaisistes. On trouve même des milliers où on a eu 100%, ce qui n'existe jamais, comme quoi il n'y a pas même de nuls, il n'y a pas d'abstention, il n'y a pas de personnes qui se sont absentées. De plus, comme si dans ces régions, il n'y a aucun nipponiste qui se sont présentés, alors qu'on avait dans toutes les communes au moins 50 membres candidats. Alors, ce mois témoigne la volonté du parti au pouvoir de ne pas accepter la démocratie, de vouloir mettre en place par force un parti unique comme il l'avait dit depuis longtemps. On ne savait pas qu'on va passer à travers la vol massive des élections.
Olivier Nkurunziza au micro d'Esdras Dikoumana. Ce matin, vous retrouvez également sur notre site internet rfi.fr l'analyse de Rigan Miviri, avocat congolais, chercheur à l'Institut Ebouteli et invité de Christophe Boisbouvier. Une nouvelle procédure judiciaire contre Pascaline Bongo en France. Selon l'agence France Presse, la fille aînée de l'ancien président gabonais a été mise en examen en janvier dernier pour blanchiment de corruption passive par agent public étranger. Entre 10 et 11 millions de dollars de fonds provenant d'une société chinoise auraient pu être blanchis via une structure à Hong Kong, puis versés sur ses comptes personnels aux États-Unis. Selon cette même source, son avocate dénonce un acharnement dans un dossier bancal. Pascaline Bongo est également poursuivie en France dans l'affaire des biens mal acquis. Elle est aussi en attente d'un procès en appel suite à sa relaxe dans une autre affaire de corruption. Au Tchad, alors que Idriss Youssouf Boy, l'ancien puissant directeur de cabinet du chef de l'État, condamné il y a un peu plus d'un mois à 5 ans de prison pour corruption, a été transféré il y a une semaine de la police judiciaire où sont habituellement détenues les grandes personnalités en disgrâce à la maison d'arrêt de Klesoum pour y purger sa peine. Eh bien, de son côté, son accusateur, Mahamat Hashim Bouder, qui est également l'un des hommes d'affaires les plus florissants du pays, ancien maire d'Amjaras, condamné à la même peine de prison, lui, a été discrètement libéré. Il vient même de quitter le pays il y a 2 jours, officiellement pour raison de santé, pour se faire soigner à l'étranger, ce qui ne convainc pas une partie de l'opinion. Esdras Dikoumana.
Mahamat Hashim Bouder a quitté le Tchad d'abord dans le jet privé qui s'était posé un peu plus tôt sur le tarmac militaire de l'aéroport international de N'Djamena, en départ pour l'étranger en vue de soins médicaux selon un haut responsable du ministère de la Justice. Donné pour gravement malade et nécessitant des soins à l'étranger, l'homme d'affaires marchait de lui-même dénonce des proches de Youssouf Boy. Condamné à 5 ans de prison tout comme l'ancien bras droit du président tchadien, Hashim Bouder et Youssouf Boy ont été tous les deux transférés à la maison d'arrêt de Klesoum jeudi dernier dans l'après-midi. Mais l'homme d'affaires n'y a séjourné qu'une heure à peine. Il a été extrait de prison et libéré à la grande surprise de la défense de Youssouf Boy, explique l'un de ses avocats, Maître Djerandi Laguerre. Il est gravement malade et ne pouvait se faire soigner qu'à l'étranger, justifie la source judiciaire, ajoutant qu'un proche s'était porté garant de son retour. Mahamat Hashim Bouder n'est pas le premier venu. Maire pendant plus de 10 ans d'Amjaras, la ville d'origine des Itno, son entreprise de travaux publics a bénéficié pendant tout ce temps de contrats publics d'une valeur de centaines de milliards de francs CFA. C'est un homme du Serail, analyse un sociologue tchadien, qui parle d'une opération qui ressemble plutôt à une exfiltration.
Esdras Dikoumana, le Tchad et ce communiqué du ministère des Affaires étrangères sur la question des visas pour les États-Unis, suspendu en théorie de part et d'autre après la mise en place du travel ban de Donald Trump. Eh bien, les autorités précisent que suite à des consultations, les titres restent valides. Les binationaux peuvent ainsi entrer au Tchad et les fonctionnaires en mission peuvent toujours obtenir des visas. N'Djamena qui appelle tout de même ses concitoyens à respecter la législation américaine en matière de séjour dont la violation a conduit le Tchad à être inclus dans ce travel ban. L'actualité au Kenya et la prise de parole de William Ruto, le président qui a hier jugé déchirant et inacceptable le décès en cellule d'Albert Ojwang, 31 ans. C'était le week-end dernier. Lui qui avait émis des critiques en ligne envers la police. Police qui avait initialement affirmé que l'homme était décédé des suites de blessures qu'il s'était lui-même infligées. Convoqué hier par les sénateurs, le chef des forces de l'ordre a finalement présenté ses excuses. Il reconnaît qu'Albert Ojwang ne s'est pas cogné la tête, rejoignant ainsi les conclusions de l'autopsie qui avait remis en cause la version officielle. Le Kenya où ce jeudi le gouvernement présente son budget au Parlement. Cette année, pas de hausse massive d'impôts prévue afin d'éviter les mêmes manifestations que l'an dernier. Au moins 60 personnes avaient été tuées selon des groupes de défense des droits humains. Et puis au Nigeria, des marches de contestation annoncées un peu partout dans le pays ce jeudi et à l'origine de l'initiative, le mouvement Take It Back, qui appelle à la protestation contre les difficultés économiques et sécuritaires qui frappent des dizaines de millions de personnes au Nigeria. Le 12 juin, date importante pour le président Bola Tinubu, date à laquelle, en 1993, son mentor en politique, Moshood Abiola, s'était, je cite, fait voler son élection. Eh bien, 32 ans plus tard, le chef de l'État devrait faire face à une nouvelle fronde contestant ses réformes d'inspiration plus libérale. Cela, moins d'un an après le mouvement End Bad Governance d'août 2024. La correspondance à Abuja de Moïse Gomis.
Alors que les manifestations de l'été dernier n'avaient pas de leader, Juwon Sanyaolu assume. Il est le visage et la voix de Take It Back Movement, ce mouvement de contestation ayant choisi ce 12 juin pour lancer un défi au président Bola Ahmed Tinubu. Juwon Sanyaolu exhorte les Nigérians à sortir en masse pour, je cite, reconquérir l'âme du pays et demander des comptes à ceux qui sont au pouvoir, fin de citation. Des métropoles comme Lagos, Benin City au sud, mais aussi Maiduguri, Yola au nord devraient voir converger des cortèges du mouvement signifiant en français reprendre en main. À Abuja, la capitale fédérale, les manifestants devraient se retrouver aux abords d'Eagle Square, l'esplanade où tous les présidents élus prêtent serment le jour de leur investiture. Si la parade prévue sur ce lieu chaque 12 juin n'aura pas lieu cette année, en revanche, le président Bola Ahmed Tinubu prononcera bien son discours à la nation, avant de rejoindre un peu plus tard dans la matinée une session conjointe au Sénat et à la Chambre des représentants. Puis en fin d'après-midi, le chef d'État devrait assister à une conférence intitulée « Consolider les acquis de la démocratie nigériane, nécessité de réformes durables ». Moïse Gomis, Abuja, RFI.
À Abuja, il est 8h42, vous retrouvez Andréane Mélard pour la suite et la fin d'RFI Matin.